Alors, on va aller dans Genèse au chapitre 27, les versets 1 à 29. Genèse, chapitre 27, versets 1 à 29. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux, qui se trouvaient à la maison, et elle en fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou, qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père! » Et Isaac dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils? » Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Jacob, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé tout simplement la leçon d'aujourd'hui, « L'opposition au plan du Seigneur est absurde. » On va voir qu'à l'intérieur de ça, il y a des personnes, il y avait eu une révélation, une affirmation divine que le plus jeune dominerait sur le plus vieux. Et que, dans le fond, ici, il y a une tentative d'essayer de s'opposer au plan de Dieu. On va voir de quelle façon tout ça va se dérouler. Alors, on va regarder l'absurdité de l'opposition d'Isaac. Ça va commencer par Isaac qui va s'opposer au plan de Dieu. On va voir de quelle façon. Et dans le verset 1 à 5. Dans les versets 6 à 27, on va voir l'opposition à la fois de Rebecca et à la fois de Jacob. Ils vont prendre des moyens charnels pour essayer de s'approprier la bénédiction. Et on va voir dans le verset 28 et 29 que finalement, la décision divine qui avait été prise concernant que ce serait le plus jeune qui dominerait le plus vieux, avec toutes les bénédictions qui l'accompagnent, c'est finalement celui à qui Dieu l'avait dirigé qui va le recevoir. Alors, je pense que les saintes Écritures, si on les regarde dans leur ensemble, je vais vous citer juste un ou deux versets pour nous montrer que quand l'Éternel prend une décision, qui fait un décret, le décret s'accomplit invariablement, immanquablement, infailliblement. Alors, on va aller voir, par exemple, ces décrets, les décrets de Dieu, les décisions divines sont toujours irrévocables et d'une solidité absolue. Quand Dieu dit quelque chose qui va arriver, dites-vous une chose, ça va arriver, peu importe le degré d'opposition que les hommes mettront à travers la route. Rien ne peut empêcher l'accomplissement de la volonté divine. Si on va, par exemple, dans Ésaïe 14, vous n'êtes pas obligé de tourner, je peux juste vous le lire. Ésaïe 14, au verset 24, ça dit, « L'Éternel des armées l'a juré, disant, « Certainement, la chose arrivera comme je l'ai projetée, et ce que j'ai résolu s'accomplira. » Nous aussi, dans Daniel 4, verset 35, on pourra prendre une multitude de versets, mais dans le fond, c'est d'établir le principe que les Écritures nous enseignent que les décisions divines sont irrévocables et s'accomplissent immanquablement, peu importe l'opposition que les hommes mettront à travers sa route. Alors, de Daniel 4, 35, ça se dit « Devant lui », en voulant dire « devant Dieu », « Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu? » Alors, ça démontre que la souveraineté de Dieu est absolue, et quand il prend des décisions, les choses s'accomplissent invariablement. Alors, pour bien comprendre le passage d'aujourd'hui, on se doit de retourner un petit peu en arrière dans le livre de la Genèse pour se rappeler qu'est-ce que l'Éternel avait dit concernant le fait que ça serait Jacob qui serait le plus jeune. Normalement, les bénédictions, à l'époque des patriarches, ça se transmettait toujours du père au plus vieux. Mais là, le Seigneur a dit concernant cette fois-là, ça ne serait pas Ésaü qui recevrait la bénédiction et qui deviendrait le maillon pour l'arrivée éventuelle du Messie, mais que ça serait le plus jeune. La décision avait été prise. Alors, ça dit dans Genèse au chapitre 25, le verset 23, l'Éternel lui dit, il parlait à Rebecca. Alors, l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples sortant de tes entrailles se séparent. Un peuple sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au moindre. » Autrement dit, il est en train de dire que c'était le plus jeune qui recevrait la bénédiction parce que on parle souvent d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, on était rendu à Isaac. Et lui, Isaac, va faire une tentative d'au lieu de donner la bénédiction au plus jeune, parce que Dieu avait dit que ça serait le plus jeune. Et lui a voulu quand même s'opposer et a donné la bénédiction au plus vieux, qui était Ésaü, son plus vieux. Pourquoi il a fait ça? Parce que ça dit dans un verset qu'il aimait la cuisine, il aimait les mets qu'Ésaü lui préparait. C'est un chasseur, Ésaü. Dans les champs, il chassait. Et à cause du fait qu'il aimait sa cuisine, il avait oublié que on dit dans certains commentateurs qui disent qu'il avait eu quelque chose comme une soixantaine d'années entre le moment où le Seigneur a fait la promesse que c'est ça qui arriverait et le moment où là, lui, il pense qu'il est sur le bord de sa mort. Il pense. On va le voir un peu plus tard. C'est arrivé pas mal plus longtemps qu'il avait cru. Alors, il est essentiel, si on veut bien comprendre. Aujourd'hui, l'introduction est un peu longue, parce que, mais c'est essentiel si on veut bien comprendre le passage. Sinon, on passe à côté. Alors, Ésaü, il faut se souvenir qu'il avait fait quelque chose de très grave. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait vendu son droit d'aînesse. Normalement, s'il n'avait pas vendu son droit d'aînesse, la bénédiction qui se transmettait d'Abraham à Isaac et à Jacob et la lignée jusqu'au Messie, il aurait été le bénéficiaire. Mais vous vous souvenez de l'histoire? Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de bine. Alors, il avait faim, il est arrivé des champs, l'autre, il a offert, il dit, vends-moi ton droit d'aînesse, promets-le à moi d'abord. L'autre, il a dit, il a vendu son droit d'aînesse. Donc, si tu le vends, tu ne l'as plus. Alors, si on recule un petit peu dans Genèse 25, les versets 29 à 34, pour nous rappeler le fait qu'il avait vendu son droit d'aînesse, c'est un péché d'une grande gravité. Alors, ça dit, « Et comme Jacob cuisait un potage, Ésaü revint des champs et il était là. » Il était fatigué. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi donc avaler du roux, de ce roux, car je suis là. » C'est pourquoi on appelle son nom Édom, qui veut dire « roux ». Et Jacob lui dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. » Et Jacob dit, « Voici, je m'en vais mourir. Et de quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, et il mangea et but, se leva, s'en alla. Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Là, si on regarde ça comme ça, puis on ne faut pas fouiller un petit peu de savoir quels étaient les avantages, quelles étaient les bénédictions qui étaient rattachées au droit d'aînesse, on manque le bateau encore une fois. Il faut le savoir, parce que quand on le sait, il avait méprisé ça, il avait rejeté cette bénédiction-là. Alors, mépriser le droit d'aînesse, c'est un péché d'une très grande gravité. Même si, des fois, dans notre première lecture, on n'en réalise pas toujours l'ampleur. Alors là, je vais toutes vous les nommer. J'ai fait une recherche. Qu'est-ce que ça comprenait, le droit d'aînesse, à cette époque-là, à l'époque des patriarches? Alors, ça contenait des bénédictions et des promesses extrêmement riches. Alors, la première, il y en a sept choses que ça comprenait, le droit d'aînesse. Souvent, quand on ne se donne pas la peine d'aller fouiller un petit peu, qu'est-ce que c'est le droit d'aînesse? Qu'est-ce que ça comprend? Et on ne comprend pas que c'était si grave que ça qu'il l'ait rejeté pour un plat de bine. Mais quand on comprend qu'est-ce que ça comprenait et que tu l'aies rejeté pour un plat de bine, là, on comprend la gravité du péché qu'il a fait. Alors, on va aller la première chose que ça comprenait. Ça comprenait de recevoir la bénédiction de son père et toutes les bénédictions qui étaient rattaché ou contenu dans les promesses de l'Alliance. Là, il faudrait retourner dans Genèse 12, Genèse 15, et regarder qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham dans l'Alliance. Et en donnant ça à son fils, il se trouvait à devenir le récepteur de cela. On va aller en lire deux, dans des passages du livre de la Genèse. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père, dans la terre que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Autrement dit, tu es en train de lui faire voir, de lui faire prendre conscience que Abraham était le père des croyants de toutes les époques, de tous les temps. « En toi sera béni toutes les nations de la terre. » Genèse 22, après ça. Genèse 22, si on se replace dans le contexte, c'était le moment où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Imaginez-vous, c'était le seul fils qu'il avait. Et Dieu lui demande de le sacrifier, de le donner un sacrifice. Alors imaginez, il l'a fait et Dieu, on sait, a permis que, et ça ne s'accomplisse pas. Et il y avait un bélier qui était pris par les cornes. Et bon, on relit le passage, chapitre 22, versets 16 à 18. J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai de toute bénédiction et je multiplierai abondamment ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta postérité parce que tu as écouté ma voix. La postérité, c'était qui? Christ. Ça nous dit dans Genèse que la postérité d'Abraham, c'était Christ. Alors, il est en train de dire, tu vas être béni. Toutes les nations de la terre vont être bénies, mais à cause de Christ, en Christ. Donc, la première chose, c'est que l'aîné recevait la bénédiction de son père. Et ça comprenait les promesses de Dieu, qu'on vient de lire dans Genèse 12 et Genèse 22, qui faisaient partie des promesses divines de l'Alliance, étaient compris dans l'Alliance. Donc, il aurait dû recevoir ça, lui, étant le premier, l'aîné. Et il a vendu ça pour un plat de bile. Deuxième chose que ça comprenait, l'aîné recevait autorité du père sur ses frères. Donc, le plus vieux devenait, autrement dit, le boss de ses frères. Il a refusé, donc il perdait ce droit-là. Troisièmement, l'aîné devenait un maillon, et autrement dit, il devenait un anneau dans la chaîne des descendants qui donnera un jour le Messie. Abraham, Isaac, il devenait un autre maillon. Après ça, ça a été Jacob, et ça s'est poursuivi comme ça jusqu'à la naissance du Messie. Donc, il était un maillon. Et c'est un honneur extrêmement grand que d'être un personnage humain par lequel Dieu se sert pour amener le Messie à venir. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Le vendu pour un plat de bine. Quatrième chose que ça lui amenait, l'aîné recevait une double portion des bénédictions, une double part de l'héritage paternel. C'est comme dans ce temps-là, il donnait deux fois plus au plus vieux dans l'héritage qu'aux autres de la famille. On lit, par exemple, dans Genèse 49, verset 3, « Ruben, tu es mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, prééminence en dignité et prééminence de puissance. » Le plus vieux était le plus digne et le plus puissant. Il a rejeté ça pour un plat de bine. Cinquièmement, l'aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu. Il a vendu ça pour un plat de bine. Sixièmement, l'aîné recevait l'héritage terrestre parce que Dieu lui avait promis qu'il recevrait un pays, donc le pays ou le territoire de Canaan. C'est comme j'avais dit, je veux pas de ton pays pour un plat de bine. Septièmement, l'aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes parce qu'il dit... Il dominera sur les hommes, il dominera sur ses ennemis. C'était énorme, c'était le droit d'aîné, c'était un privilège énorme d'une grande richesse. Alors, Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous enseigne sur ce que Ésaü avait fait en vendant son droit d'aîné? Alors, on commence au verset 14, Hébreux 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, excusez-moi, personne ne verra le Seigneur, veillant à ce qu'aucune personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait point de fornicateur ni de profane comme Ésaü. » Le Nouveau Testament se souvient de ce qu'il a fait. C'était grave ce qu'il avait fait. Qui, pour un mais, vendit son droit d'aînesse? Car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, car il n'obtint pas un changement de résolution, quoi qu'il le demandait avec larmes. Alors, l'introduction qui était un peu longue, mais d'un autre côté, c'est nécessaire pour qu'on comprenne la portée de ce qu'on est en train d'étudier ce matin. Alors, la leçon spirituelle du passage, elle est simple, c'est que le Seigneur veut nous enseigner que les machinations humaines, que ce soit celle d'Isaac, celle de Rebecca et celle de Jacob, ça ne fonctionne pas, c'est futile. Le Seigneur avait dit que c'était le plus jeune qui va dominer. Et ça va arriver. Quoique, ici, on voit que Isaac, il s'essaye, autrement dit, de passer par-dessus ce que Dieu avait décidé. Alors, on va voir que l'opposition humaine est toujours futile et que la décision de Dieu d'accorder souverainement la bénédiction à Jacob va se réaliser en dépit des nombreux péchés qu'on voit dans ce passage-là. Alors, quand on les lit dans le verset 1 à 5, c'est il était devenu vieux et il était presque aveugle, il ne voyait presque plus. Et il pensait qu'il était pour mourir bientôt. Parce qu'il dit dans le verset 2, « Je ne sais point le jour de ma mort. » Autrement dit, il se disait, « Il faut que je te donne la bénédiction avant que je meure. » Après ça, là, il dit, « Maintenant, va, prends-toi tes armes, va chercher du gibier, apprête-moi un mets appétissant, comme je les aime. Apporte-le-moi, que je mange, afin que mon âme te bénisse. » Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait transmettre la bénédiction que Dieu avait dit qu'il irait à son plus jeune. Il voulait lui quand même s'asseyer parce qu'il aimait les limites de son fils. Vous voyez, le cœur humain, même si c'est des patriarches, étaient des pécheurs quand même. Alors, Dieu permet une chose dans le verset 5, que Rebecca, elle écoutait. Autrement dit, elle écoutait aux portes. Et elle a entendu dire à son mari, voyez-vous, ça s'est fait en secret. Hein? C'est comme il n'aurait pas voulu dire ça à sa femme, parce que là, sa femme aurait pu dire, « Oh, Dieu avait dit, non. » Là, il s'asseye. Il fait ça en secret, il fait ça en catimini, comme on dit. Mais Dieu permet que, oups, sa femme comprenne ce qu'il a dit. Et à quelque part, on va voir que Dieu se sert de cela pour briser la machination d'Isaac, et on va voir plus tard qu'il va briser aussi les machinations à la fois de Rebecca et de Jacob, et on va voir que tout cela va avoir des répercussions, parce que là, la semaine prochaine, on va voir l'autre leçon, c'est que quand Ésaü va se rendre compte qu'il s'est fait passer une petite vite par son frère, il va faire une colère épouvantable, il va désirer tuer son frère à cause de cela. Et les répercussions que tout cela avait eues dans le cours d'histoire, Édom est devenu un ennemi d'Israël dans le temps. Mais tout ça, c'est les mauvais choix d'Ésaü vont le suivre. Après ça, on se souvient, la semaine dernière, on avait vu qu'il avait décidé de marier des Hétiennes. Les Hétiennes, c'était les pires, parmi les Cananéens, c'était les pires Cananéens qui ne pouvaient pas hésiter. Il a marié deux Cananéennes. Et les Cananéennes, les Hétiennes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il offrait des enfants en sacrifice à Moloch. Fait que lui, Ésaü, c'est ce type de femme-là qu'il est allé chercher, qu'il en a marié deux. Et on va voir un petit peu plus loin qu'il en a marié une troisième. Fait qu'il en a marié trois, puis il a marié des Hétiennes, et à quelque part des Hétiennes, et après ça, il a marié, je pense, une fille de... Je n'ai plus de son nom, en tout cas. Trois. Ça devrait être suffisant. Il vend son droit d'aînesse, il marie des païennes, la pire espèce. Puis encore, malgré que son père il dit « Fais-moi un plat », puis il aspire encore à recevoir la bénédiction dont il s'était lui-même disqualifié. Maintenant, l'intention d'Isaac d'accorder la bénédiction à Ésaü. Il semble vouloir s'acharner à vouloir donner la bénédiction à son fils aîné. Alors, Ésaü s'était lui-même disqualifié pour plusieurs raisons. Première raison, il avait méprisé son droit d'aînesse. Deuxième raison, il avait marié des Hétiennes. Les Hétiennes étaient les pires des Cananéens pratiquant les plus grossières idolâtries. Faire brûler ton premier-né là, à Moloch pour obtenir des faveurs de Satan, c'était un péché énorme. Et toi, il choisit ces femmes-là comme des femmes. Apparemment qu'il y a eu des fouilles archéologiques et dans le coin où étaient les Hétiens, apparemment qu'ils ont trouvé des champs complets, pleins d'ossements humains. Parce que ça laissait des traces, ça, de faire brûler tes enfants. Imaginez-vous faire brûler ton fils, ton premier-né, pour obtenir des faveurs terrestres de la part du diable. C'était le genre de fille qui avait été mariée. Alors, il était disqualifié de toute façon. Mais on voit que quand son père lui a dit « Fais-moi un mets et je vais te bénir après », il se calculait pas comme étant disqualifié. Il l'était, mais il l'était à un très fort degré. Alors, on voit que Jacob s'asseye, puis Ésaü, il embarque dans le jeu lui aussi. Alors, il péchait lui aussi en faisant ça. Parce que dans le verset 25, dans le chapitre 25 au verset 28, ça dit une des raisons que ça nous fait comprendre pourquoi pourquoi il aimait son fils Ésaü. Ça nous dit dans le verset 28, et Isaac aimait Ésaü, car la venaison était de son goût, mais Rebecca aimait Jacob. Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous? Une famille divisée, les amours partagés. Un qui favorise son père, l'autre favorise sa mère, la mère favorise pas le même fils, mais pas pour les mêmes raisons. Mais ici, on apprend pourquoi il aimait tant son fils, parce que ça dit, et Isaac aimait Ésaü, car la venaison, autrement dit, la chasse, il allait à la chasse, puis il faisait des plats, était de son goût. Bizarre, pareil. Alors, Ésaü était devenu le préféré de son père, en le prenant. Il l'avait pris, autrement dit, par son estomac. Il semble que c'est le point faible des hommes, l'estomac. Alors, nous devons nous rappeler qu'il s'était écoulé beaucoup de temps. Selon le Pulpit Commentary, là, que si tu vas lire ces passages-là, on dit qu'il se serait passé entre 57 à 70 ans. Dieu a fait la promesse, mais c'était loin. Alors lui, peut-être qu'il s'est dit, ben, vu que ça fait si longtemps, peut-être que la bénédiction, je peux la donner à mon plus vieux. Alors, quelque part, son raisonnement était faussé un petit peu. Alors, le fait aussi qu'il l'a fait de façon secrète. Sa femme, elle l'a écouté, mais c'est pas parce qu'il voulait qu'elle l'entende. Il voulait plutôt lui cacher. Parce qu'elle, elle aurait pu arriver puis dire, « Hey, c'est pas ça que Dieu a dit. Puis oublie pas une affaire aussi, mon mari, c'est que cette... Ton fils le plus vieux, il a marié deux Éthiennes, deux femmes païennes de la pire espèce. Elle aurait pu plaider. Puis peut-être qu'il aurait cédé. Mais non, il fait ça en catimini, mais Dieu permet que l'oreille de Rebecca est là et l'écoute. À la providence, qu'on pourrait dire la providence veille. Rebecca était indiscrète parce qu'elle écoutait aux portes. C'est un peu. Je pense que c'est pas d'hier que ce péché-là existe. Alors, il donne des directives à son fils Isaü pour réaliser son stratagème de vouloir donner la bénédiction au plus vieux plutôt qu'au plus jeune. Là, si je vous demandais quel âge avait Isaac au moment que lui a fait ça, les Écritures nous disent qu'il avait 137 ans, au moment que ce qu'on lit aujourd'hui, là, c'est arrivé. Lui, il pensait qu'il était pour mourir bientôt. Mais le Seigneur a voulu qu'il vive jusqu'à 180 ans. Donc, de 37 à 80, ça fait 43 ans à plus tard. Donc, parce que Genèse 35, 28, si on veut savoir vraiment l'âge où qui est mort, ça dit, et les jours d'Isaac furent de 180 ans. Donc, au moment où il essaye de passer une petite vite, il a 137, puis il est sûr qu'il va mourir bientôt, le Seigneur est dit... Ton heure n'est pas venue, mon jeune homme. Tu vas mourir à 180. Alors, 43 ans, il a vécu encore 43 ans après cette histoire-là. Mais on va voir que ça lui a coûté cher. Ça lui a créé un énorme problème dans la famille, comme on va le voir dans les chapitres plus loin. Alors, son comportement comme chef de famille était coupable envers Dieu lui-même, parce qu'il est en train d'essayer de vouloir aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il était coupable aussi envers Rebecca. Parce qu'en faisant ça, il faisait une chose qui était. La famille n'était pas d'accord avec le principe de ce qu'il essayait de faire. Il était responsable envers Jacob. Il était en train de lui donner le mauvais exemple. Comme père de famille, il aurait dû lui montrer le bon exemple. Et il était responsable aussi envers Ésaü, parce qu'Ésaü s'était disqualifié lui-même et il cherchait à vouloir lui donner la bénédiction quand même. Alors, il était coupable comme chef de famille envers Dieu, envers sa femme, envers ses deux fils. C'est grave, là, quand on pense à ça. C'est un dérapage spirituel. Qui dans sa vie, d'entre nous, n'a pas su en avoir le moindrement d'années, moindrement le nombre d'années, on a tout eu des petits dérapages. Hein? C'était là, bon, à quelque part. Vouloir aller à l'encontre de la volonté révélée de Dieu, c'est un très grave péché. Les causes du dérapage, on peut en imaginer quelques-unes. Une famille divisée par le favoritisme parental. C'est très mauvais pour ceux qui ont des enfants que de donner, favoriser un fils en amour plus que sur un autre. Ça a des effets désastreux. Alors, on voit que c'était le cas. On était rendu avec une famille divisée. Et je pense qu'on peut dire de Jacob qu'il avait un amour désordonné des plaisirs de la table. Il aimait ça, lui, quand son fils allait à la chasse, puis qu'il ramenait, qu'il faisait un bon plat, comme je les aime, comme ça disait tantôt. Peut-être qu'il donnait un peu trop d'importance aux choses terrestres. Il était obstiné aussi. Parce que même si Dieu l'avait dit entre 57 et 70 ans auparavant, ce que Dieu a dit, comment que ça fera 2000 ans, quand le Seigneur nous a dit qu'il reviendrait, là, pas 2000 ans. On le croit-tu encore? Ben oui, parce que les promesses de Dieu, ça dépasse le temps. À quelque part, il n'aura pas dû penser qu'après, à cause qu'elle faisait 70 ans que le Seigneur l'avait dit, que ça ne s'appliquait plus à lui, là. Et il y a très certainement un fort degré d'inconscience d'essayer de s'opposer à la volonté de Dieu. Le deuxième point qu'on va regarder, donc on regarde que Isaac avait l'intention de donner la bénédiction, de transmettre le droit d'aînesse au plus vieux, alors qu'il l'avait perdu. Alors, le chapitre 27, à partir du verset 6 jusqu'au verset 17, là, ça nous montre que Rebecca parla à Jacob, son fils. Quand elle a vu ça, elle, parce qu'elle avait écouté aux portes, là, elle dit, il est en train de vouloir donner... au lieu d'aller de voir son mari, puis de dire, écoute, mon mari, il y a telle affaire, tu devrais te souvenir que Dieu a dit ça. Tu devrais te souvenir que ton fils a marié des Étienne, etc. Elle ne l'a pas fait. Elle a voulu, elle aussi, se bâtir un petit stratagème pour... que ça marche, l'affaire. Autrement dit, c'est dit, OK, il veut donner la bénédiction à Ésaü. Moi, je ne veux pas. Alors, quelque part, tu vas aller le voir, tu vas y faire coller que le mec qui a demandé à Ésaü, que c'est toi qui l'a emmené, que tu es Ésaü, pour que la tromperie des poils, elle a mis des poils dans le cou, elle a tout joué le jeu pour essayer de tromper, donc elle utilisait le mensonge. Est-ce que Dieu approuve le mensonge? Jamais. La tromperie, l'irrespect envers son père, c'est ça qui se passe. On ne relira pas le passage, mais dans le fond, ce qu'on voit, le péché de Rebecca, on va les passer un par un, les péchés. Le péché de Rebecca, c'est vraiment une inconscience présomptueuse. Il y a une inconscience présomptueuse envers le Seigneur. C'est comme si elle avait pensé que le Seigneur n'est pas capable de réaliser ses affaires sans son intervention. Quand on se mêle des choses divines, puis que Dieu fait une promesse. On n'a pas besoin d'intervenir pour que sa promesse se réalise. Elle va se réaliser de par elle-même. Alors, c'est ça qu'on voyait. Alors, c'est comme... Ça comportait un risque énorme que de vouloir prendre un risque énorme en disant... la phrase qu'elle a dit dans le passage. Que ta bénédiction tombe sur moi, mon fils. Quelle folie est en train de dire là. Autrement dit, lui, quand il a vu qu'elle lui demandait de faire ça, il a eu peur. Il a dit, ouais, mais il va se rendre compte, j'ai pas les pas en même voix. Puis il dit, au lieu d'avoir la bénédiction, je vais avoir la malédiction. Elle a dit, que ta malédiction tombe sur moi. C'était énorme ce qu'elle disait, c'est une bêtise énorme. Aussi, elle prend un risque grave envers Isaac en prenant avantage de son infirmité. Et elle risquait d'envenimer la situation familiale qui était déjà précoce et fragile. Elle risquait de la rendre irrécupérable et que la famille soit divisée à tout jamais. C'était déjà désastreux, mais elle prenait un risque que ça devienne encore pire. Elle prend un risque aussi envers Jacob. Comment? Elle lui enseigne le mensonge, elle lui enseigne la tromperie, et elle le conseille, et sans nécessairement voir nécessairement de façon lucide les conséquences spirituelles possibles de ses actions. Et elle prend un autre risque aussi envers Ésaü, en élargissant davantage la division familiale qui existait déjà, et en provoquant une violence et une vengeance potentielle. On le sait, la semaine prochaine, ça va être la suite, va voir que quand Ésaü s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir, que le père avait donné sa bénédiction à son fils, puis que c'était irrécupérable, c'était irrévocable, il ne pouvait pas revenir dessus. Il ne pouvait pas dire « Ah, ben je me suis trompé ». Il l'avait dit, il l'avait fait, il l'a dit « Je l'ai béni et il sera béni ». Là, on le cite alors dans Hébreu, ça nous a dit qu'il a voulu, Ésaü, revenir et d'essayer de récupérer la bénédiction. Mais ça dit « Il fut rejeté ». Bon, elle a très mal agi en termes de mère. Ses péchés dans ce passage-là sont multiples. Premièrement, dans le verset 5, l'indiscrétion. Écouter aux portes, c'est un péché. L'abus d'autorité, en disant à son fils, « Va, je te le dis, c'est ça qu'il faut que tu fasses », elle abusait de son autorité envers son fils. Un autre péché, la tromperie. On va te mettre du poil dans le cou, on va te mettre du poil sur les mains, on va te mettre les vêtements de ton fils Ésaü, ça va sentir la même chose. Il ne verra pas la différence, il est rendu à moitié aveugle. Après ça, l'effronterie, d'aller se présenter comme ça, puis de penser que... Puis ça l'a réussi. Mais Dieu s'est servi de tous les péchés de tout ce monde-là pour réaliser son projet. Bien sûr, il y avait de l'hypocrisie, une énorme hypocrisie là-dedans. Fait que si on fait le tour, là, ça fait beaucoup de péchés. L'indiscrétion, l'abus d'autorité, la tromperie, l'effronterie, l'hypocrisie, ça en fait pas mal. Et le mensonge. Et la complicité. Donc, malgré ses bonnes intentions, elle voulait que la bénédiction aille aux plus jeunes, mais Dieu avait promis, elle n'avait pas d'affaire à essayer de se mêler de ça en voulant aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On n'aide jamais Dieu. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut, il n'y a pas besoin de nous autres. Mais à quelque part, on voit aussi que quand les êtres humains agissent de cette façon-là, qu'est-ce que ça donne comme réponse? Maintenant, on va voir le péché de Rebecca. Maintenant, on va regarder le péché de Jacob. Jacob, il y a un comportement à l'intérieur de ça qui est comportement impie. Parce qu'il nous raconte toute l'histoire, que ses mains étaient velues, puis il a essayé d'en passer une vite à son père. Il pêche très gravement par son obéissance servile à sa mère. Un être humain, parce qu'il fait partie de la descendance Jacob, tu sais, les Écritures nous parlent d'Abraham, Isaac et Jacob, donc Isaac faisait partie de la descendance, mais quelque part, ça ne l'autorise pas à pécher pour autant. À quelque part, obéir à sa mère quand ta mère te demande une affaire, d'aller mentir à ton père, d'aller tromper ton père, puis tous les autres péchés qui l'accompagnent, il aurait dû dire « Non, maman, je n'embarque pas là-dedans. » Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, son fils? Une obéissance servile à sa mère. Alors, il ne tient pas compte des avertissements de sa conscience, parce qu'il n'avait eu des avertissements dans sa conscience, parce que ça dit... Il avait peur d'être découvert. Il avait peur de recevoir une malédiction. Et, à quelque part, il devient un complice de la tromperie par le mets, par les vêtements, parce qu'il accepte de mettre les vêtements de son frère sur son dos, alors qu'il savait très bien que c'était pas les siens. Son père lui demande, « Es-tu Ésaü, mon fils? » Il dit, « Oui, je le suis. » Imaginez-vous le mensonge. Alors, il fait preuve vraiment de beaucoup d'insouciance en ne percevant pas les conséquences terrestres et les conséquences spirituelles et divines de son action. Son hypocrisie est sans excuse lorsqu'il dit effrontément à son père, « Je suis Ésaü. » Oh boy! Il utilise en vain le nom de Dieu en plus, là-dedans, dans sa machination, dans son approche à son père. Voici ce qu'il dit. Son père, il lui pose une question. Veux-tu bien me dire, mon fils, comment ça se fait que tu as trouvé du gibier aussi rapidement que ça? Regardez bien qu'est-ce qu'il répond. Je trouve que c'est grave ce qu'il lui dit. Comment donc en as-tu trouvé si tôt, mon fils? Autrement dit, il a trouvé que le temps d'aller chasser était très très court. Comment ça que tu m'arrives avec un mets déjà tout fait, puis il me semble que tu viens de partir. Il y avait comme un petit doute dans son esprit. Voici ce qu'il y répond. Et il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait rencontrer. Il est en train de dire, c'est Dieu qui a permis. Alors, il mêle Dieu à sa machination, ce qui est grave aussi, parce qu'il mêle Dieu, autrement dit, c'est Dieu qui a permis que quasiment comme s'il dirait, c'est Dieu qui a permis que je te tombe. C'est quasiment aussi grave que ça. Maintenant, le péché d'Ésaü. Ésaü aussi, là-dedans, il a péché parce que il a fait preuve, il est vraiment une arrogance charnelle, parce qu'il a fait preuve d'une prétention aveugle lorsqu'il collabore avec Isaac pour s'approprier une bénédiction pour laquelle il s'est lui-même disqualifié et il a volontairement et dédaigneusement méprisé les privilèges rattachés au droit d'aînesse. Ça, quelque part. Mais je ne peux pas croire que les sept choses que je vous ai nommées tantôt, qui sont des avantages au droit d'aînesse, qu'il ne les connaissait pas. Il les connaissait. Il est allé à la chasse, il était fatigué, puis l'autre, il avait fait un plat de bine, puis ah, j'ai faim, moi, ça, que je l'avale. Quelque part, ça démontre qu'il y avait une inconscience de la richesse de la bénédiction paternelle qu'il aurait dû recevoir. Il l'a perdu lui-même, volontairement. Et là, son père lui offre qu'il reçoive sa bénédiction en échange d'un bon repas, et il accepte. Il aurait dû dire, je suis disqualifié, papa. En plus, j'ai marié deux païennes. Lui-même aussi les a eues en barque dans le jeu. Alors, on va voir je pense qu'on ne pourra pas terminer ça cette semaine, mais en tout cas, on va faire un autre petit bout. La troisième idée, c'est vraiment que Dieu, quand les êtres humains s'opposent au plan de Dieu, c'est toujours un échec monumental. C'est toujours ça. Peu importe ce que vous lisez dans les Écritures, quand l'homme cherche à s'interposer dans les plans de Dieu, ça marche jamais. Voyez-vous le verset 27, chapitre 27, versets 28 et 29. Donc, il est arrivé, il a trompé son père, il a dit oui, c'est moi, Ésaü, et son père a mangé le mets. Donc, son père, a, jusqu'à un certain point, a embarqué dans le jeu. Et voici, il lui donne la bénédiction. Mais lui, il pense qu'il la donne à Ésaü, là. Mais il la donne au plus jeune. Mais quelle était l'intention divine? Que la bénédiction aille au plus jeune. Donc, Dieu se sert des péchés des hommes pour réaliser ce que lui avait décidé. Voyez-vous, notre verset 28 et 29, ça dit, et là, c'est Isaac qui bénit son fils, mais il pense qu'il donne la bénédiction à Ésaü, mais il la donne à son autre fils, au plus jeune. Il dit, mais écoutez bien, c'est rempli de richesse, la bénédiction qu'il lui fait. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre. Donc, autrement dit, on parle de la rosée des cieux, c'est comme une bénédiction d'origine divine, d'origine céleste. Et de la graisse de la terre. La graisse de la terre, c'est ce que la terre produit de mieux. Autrement dit, tu vas recevoir des bénédictions d'en haut et tu vas recevoir de la terre des choses, des richesses inestimables. Et de la graisse de la terre. Et une abondance de froment et de moût. Froment, c'est du blé. Le moût, c'est les vignes. Ce sont les plantes, d'après les commentateurs, qui sont les plus riches en termes de voir. Quelqu'un qui a déjà vu un champ de blé ondulé, là, quand ils sont rendus mûrs, c'est beau, c'est beau. Ben Dieu lui dit, c'est ça, lui est en train de lui dire, jamais tu manqueras de nourriture, jamais tu manqueras de vin. C'est énorme la bénédiction qu'il est en train de lui dire, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Que des peuples te servent. On sait que ça faisait partie et que des nations se prosternent devant toi. C'est énorme. Sois le maître de tes frères. C'est vrai qu'il est devenu le maître du plus vieux, alors ça aurait dû être l'inverse. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Donc les nations devraient se prosterner devant lui, et non seulement les nations, mais sa famille immédiate et les familles futures se prosternent devant toi. Quiconque te maudira soit maudit, et quiconque te bénira soit béni. Lorsque les hommes dérapent, le Seigneur veille à l'exécution et à l'accomplissement de sa volonté. Il utilise les circonstances, comme le fait qu'elle écoutait à la porte, et de la providence et sa souveraineté invincible, autrement dit, comment tu essaieras de te mettre dans le chemin, ça ne marchera pas, pour contrecarrer les mauvaises intentions humaines. Il y avait des mauvaises intentions humaines d'Isaac, de Jacob, de Rebecca et d'Ésaü. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a maîtrisé tout cela pour arriver à ce que sa décision du départ s'accomplisse. Mais pour... Imaginez-vous quand il va se rendre compte, c'est la semaine prochaine qu'on va le voir, quand il va se rendre compte, lui-là, qui s'est fait avoir, que son fils... Puis Ésaü, la réaction d'Ésaü, ça a mis un problème dans la famille. Il voulait le tuer. Puis on va voir qu'il est obligé de sortir du pays. Parce que s'il n'était pas sorti du pays, probablement qu'il aurait arrivé à le tuer. Alors, ce n'est pas des péchés... c'est des péchés qui ont eu des conséquences immédiates, et des péchés qui ont eu des conséquences dans l'avenir, non seulement de la famille, mais de tout Israël pour des dizaines, des centaines, des milliers d'années. Parce que Édom, quand on continue à lire les Écritures, on se rend compte que Édom a devenu un ennemi d'Israël. C'est pas un hasard. Les péchés du début te suivent, et te suivent, et te suivent, et te suivent. Alors, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça serait trop long de la terminer, mais on terminera la semaine prochaine.